L'écho. L'écho.
Vos paupières sont lourdes.
Quand j'ouvre une école, je ferme une prison.
Arrête, tu me fais peur.
L'écho.
I have a dream.
Le patrimoine a dit vrai.
L'écho des cartables.
Écoutez, taisez-vous, ça commence.
L'écho des cartables.
Des cartables.
L'écho des cartables.
L'émission des élèves des écoles de Montpellier Sud.
Salut, moi c'est Brice.
Moi c'est Nina et bienvenue
dans l'écho des cartables.
Avec la classe de Madame Charton et de Madame Shell de l'école Charles Dickens.
Aujourd'hui, nous allons vous parler...
d'escalade.
Oui, nous vous ferons voltiger jusqu'en haut des voies.
Mais aussi du collège.
Où nous rencontrerons des troisièmes qui partent au lycée.
De la musique avec Swan et Mounir.
Nous avons aussi de la poésie à vous proposer.
Avec Alison et Vincent.
Nous vous parlerons également de l'actualité et de nos ressentis.
Sans oublier le théâtre, où nous recevrons la visite de personnages inattendus.
Mais qui est-ce?
Ça, c'est une surprise.
Et il y aura bien entendu le quiz après chaque rubrique.
Avec Alex et Hugo.
Mais qu'est-ce que tu fais, Nina?
Ben, je monte le volume.
Rubrique escalade. Vous allez découvrir l'art de grimper en haut des voies.
Et vous entendrez l'interview d'un professeur de sport du collège Les Aiguerelles, Monsieur Cardin.
Cardin, la marque de bijoux?
Mais non, banane.
Ça va, tout le monde a le droit de se tromper.
Bon, revenons à nous, moutons.
Pour les réponses à toutes nos questions, écoutons...
Widad, Ezoubir et Melinda.
Moi, je vous attends déjà là-haut.
Quand on est en escalade, le premier réflexe qu'on a, c'est de grimper de face. S'il y a quelqu'un en dessous, tu lui tombes dessus. Donc on ne grimpe pas tous en même temps. On regarde ses mains, mais on regarde aussi ses pieds. Alors imaginez les bras si vous êtes comme ça. Mais là, cette position de grenouille, je peux pousser.
Chers auditeurs, nous avons fait de l'escalade un cycle de 10 séances.
Nous avons grimpé sur un mur artificiel.
Oui, le mur d'escalade du collège des Aiguerelles.
Attention, ce n'est pas un petit mur comme ceux des jardins d'enfants.
Non, c'est un mur de plusieurs mètres de haut.
En plus, il y a plusieurs pans de mur et ils sont couverts de prises.
Les prises, ce sont des formes qui sont fixées au mur et qui dépassent du mur.
Elles servent à grimper. Les crosses sont excellentes pour les mains.
Et les plates sont des bonnes prises pour les pieds.
Il y a des prises de toutes les couleurs. Est-ce que tu as utilisé toutes les couleurs pour grimper?
Oui, mais on a fait un jeu où on devait utiliser que les prises rouges.
Je me souviens, c'était plus difficile.
Melinda, tu te rappelles des jeux qu'on faisait pour s'échauffer avant de grimper?
Au signal, il fallait vite attraper une prise rouge.
Et ne pas tomber.
Sinon, on était éliminés.
Et c'était de plus en plus dur.
Par exemple, il fallait se tenir à une prise jaune sans utiliser les deux mains.
Ou à une prise orange sans utiliser les pieds. Est-ce que tu as eu peur de grimper, Zubir?
Non, pas la première fois. Quand on a commencé à aller plus haut, là oui.
Pour faire des voies, aller tout en haut du mur, il faut du matériel spécial.
Du matériel pour bien être assuré.
C'est-à-dire être retenu par la corde.
Si on lâche une prise et qu'on glisse.
Celui qui t'assure te retient.
Car la corde passe dans un descendeur.
Qu'on attache au boudrier à l'aide d'une corde, d'un mousqueton à vis.
Récapitulant, pour grimper, il faut...
une corde, un baudrier, un descendeur et un mousqueton à vis.
Ça vous est arrivé d'être retenu par la corde?
Oui, une fois, mon pied a glissé. J'ai eu un peu peur de tomber, mais Mélissa m'a retenu.
Moi, pour atteindre certaines prises, j'ai sauté. J'avais confiance.
Et les autres, tu crois qu'ils ont eu peur?
Nous avons interrogé l'autre classe de CM2 de notre école, qui fait aussi un cycle escalade au collège, pour connaître leurs impressions.
Donc on ne grimpe pas tous en même temps. Il y en a un qui prend un secteur, et l'autre qui prend un autre secteur. Et s'il y a déjà quelqu'un, on attend son tour. D'accord?
Qu'est-ce que tu ressens en faisant de l'escalade?
Que je suis la plus forte, de la sensation en fait, quand on est tout en haut, ça fait peur. En fait, t'as envie déjà de descendre, ça fait vraiment des frissons.
J'aime bien, parce que quand on tombe et qu'on est pendu, et ben, on croit qu'on vole.
En haut, j'ai le vertige.
Et là, tu pousses pour aller mettre ton pied sur la verte. Allez, pousse sur la jambe, pousse.
J'ai peur de tomber, que ma compagne lâche tout, que je tombe et que je m'écrase par terre.
C'est dur, on a le stress quand on monte tout en haut. Mais des fois tu glisses.
Les prises c'est dur à prendre, il y en a c'est des petites prises et quand tu les prends, ben ça fait... ils sont pas creusés là.
Ouais, on a beaucoup mal aux bras.
C'est vrai que ça fait très mal aux doigts quand même quand on assure et tout ça.
Mais quand on redescend, ben c'est trop bien.
Je l'ouvre directement et je peux directement accrocher, c'est pas moi qui le fais, c'est toi. Vas-y. Ouais, voilà. D'accord.
Donc en escalade, on cherche des attitudes où on va être le plus souvent bras tendus. On a les bras tendus et de temps en temps... Mais...
Bonjour Monsieur Cardin, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive.
Vous faites faire de l'escalade à des élèves de CM2.
Nous souhaitons vous poser quelques questions sur cette activité.
Quand a été construite cette salle d'escalade ?
C'est un projet qui a mis du temps avant d'aboutir. Il a fallu à peu près une dizaine d'années pour arriver à ce que vous voyez actuellement. Et il y a simplement 3 ans qu'elle fonctionne dans l'état où vous la voyez.
Depuis combien de temps enseignez-vous l'escalade ?
25 ans à peu près.
Pourquoi est-ce intéressant pour vous d'enseigner l'escalade ?
C'est une activité qui est à mon sens riche au niveau de la motricité, ça veut dire au niveau des gestes. Et en général, c'est une activité qui plaît aussi bien aux garçons qu'aux filles. Hein. Et au niveau aussi émotionnel, parce que quand on grimpe, quand on est tout en haut du mur, eh ben, ça fait un petit peu peur. Donc c'est bien d'apprendre aussi à maîtriser sa peur. Et troisième point aussi, il y a plein de techniques de sécurité à maîtriser. Ça fait appel aussi à des connaissances, d'encordement, savoir faire son nœud, etc.
Pourquoi faire de l'escalade au CM2 plutôt qu'aux autres classes ?
Parce que les CM2, l'année prochaine, vous allez rentrer en 6e, donc je vous verrai. Donc c'est pour pouvoir faire une liaison entre vous et nous, et puis que ça soit plus agréable pour vous quand vous allez arriver au collège, parce que c'est un établissement nouveau. C'est aussi une façon pour vous d'être plus à l'aise dans votre entrée en 6e de l'année prochaine.
Merci pour vos réponses.
Ben, merci à vous, et c'était avec plaisir que j'ai répondu avec vos questions. Et à bientôt.
Merci Monsieur Cardin d'avoir répondu à nos questions.
Au mois de juin, nous allons faire une sortie en falaise.
J'ai hâte d'y être.
Quiz, quiz. Devinette et devinette.
Question, réponse.
Yalla l'abo.
Charade, j'étais beau.
C'est Hugo et Alexis. Nous serons là pour vous poser des questions très difficiles à la fin de certaines rubriques.
Réveillez-vous, c'est la première question.
De quel matériel avons-nous besoin pour grimper ?
Pour grimper, nous avons besoin d'une corde, d'un boudrier, d'un descendeur et d'un mousqueton à vis.
C'était super la rubrique escalade.
On enchaîne avec la rubrique collège.
L'année prochaine, on passera en 6e et les 3e passeront eux en 2e.
Oui, au lycée.
Et pour nous, il va y avoir plein de changements et pour les 3e aussi.
C'est justement le sujet de cette rubrique animée par Ellie, Imen et Mélissa.
C'est le
C'est le coco.
C'est la 6e.
Le coco.
C'est le collège.
Nous allons essayer, dans notre rubrique, de comparer ce que nous, élèves de CM2, ressentons juste avant de passer en 6e au collège et ce que ressentent des élèves de 3e avant d'aller au lycée.
Moi, j'ai peur du changement de prof toutes les heures.
Oui, je comprends, peur de se perdre. Le collège me paraît immense vu de notre petite cour d'école. Le pire, ce serait de rentrer dans une classe où il y a des 3e qui travaillent.
Et pour des collégiens, ça changera leurs habitudes d'aller au lycée ?
Déjà, ça n'a jamais été compliqué, je trouve, de changer de prof comme ça toutes les heures.
Et on est habitué avec le collège et c'est un bon fonctionnement, c'est mieux qu'à l'école primaire, alors ça va.
L'établissement sera plus grand, c'est tout.
Il faudra aussi se lever plus tôt parce que certains cours commencent à 8h30 et l'emploi du temps peut être compliqué à suivre au début.
Fini les grasses matinées du mercredi, il y a cours.
Bah déjà en seconde on a des options à prendre et on va pas tous prendre les mêmes. Donc déjà on va tous se séparer un petit peu, se morceler, après il y a des classes euro. Et en choisissant une section, voilà, on se renseigne aussi sur les heures qui vont changer, qu'on va avoir en plus ou pas. Mais c'est bien parce qu'on a que 2 heures de sport en seconde.
Il se peut qu'on ait des cours le mercredi après-midi ou le samedi matin, mais c'est plus des matières facultatives qu'on a choisies nous-mêmes, par exemple l'art plastique, la musique.
J'ai l'impression que les profs s'occupent moins des élèves quand on a besoin d'aide. On se sentira un peu plus seul.
Ben, ça dépend des profs, Mélissa. Ils sont tous différents.
Et quand même, au collège, on n'est pas trop lâché quand même, parce que surtout celui-là, c'est un petit collège. Donc les profs connaissent relativement bien les élèves et s'il y a des problèmes, ça passe quand même.
Les 6e qui vont rentrer l'année prochaine, ils connaîtront des personnes qui sont là depuis 2 ou 3 ans. Et à ce moment-là, ils pourront leur poser des questions dans des matières qu'ils n'ont pas compris. Ils seront peut-être lâchés par les profs, mais pas par les élèves.
Au lycée, on fonctionne beaucoup sur la prise de notes, alors ils font pas toujours attention si jamais on prend bien les cours. Ils font, oui, moins attention à nous, mais il suffit par exemple de leur demander et je pense que ça pose pas de problème.
Déjà, on sera plus dans les classes. Là, on est 20, alors que là, on sera 36 à peu près. Donc, ils auront moins de temps.
Pour la seconde générale et technologique, je sais plus s'il y a 1 heure ou 2 heures, mais c'est des heures de devoirs où il y a des professeurs. On fait nos devoirs et on peut leur demander de l'aide sur des matières qu'on n'a pas très bien compris.
C'est vrai, on a aussi des maîtresses qui ont de la patience et d'autres qui disent toujours « vite, vite ».
Moi, j'essaie de profiter de l'école primaire. Je suis encore un enfant et quand je rentrerai au collège, je passerai un cap. Et puis au collège, on jouera moins sans doute.
Eh oui, Ellie, on grandit.
On aura plus de responsabilités. Peut-être que mes parents me laisseront m'occuper plus de ma petite sœur.
Les miens me laisseront faire plus de choses seules.
Eh bien pas moi, mes parents sont toujours sur mon dos. Je ne ferai pas encore ce que je veux.
J'ai bien envie d'avoir un téléphone portable, je demande, mais c'est toujours « on verra », peut-être en sixième.
À moi, mes parents me disent « le plus tard possible ».
Enfin bon, on grandit, mais pas tant que ça quand même.
Tu crois qu'en troisième, les collégiens se sentent encore petits ? J'ai l'impression qu'après 4 années passées au collège, ils sont plus préparés au changement.
Oui, parce qu'au lycée, c'est très sérieux, on ne joue plus du tout, ou presque.
On a tous pensé ça en allant en collège, quoi. Quand on irait, ça serait sérieux, mais on peut rigoler. Hein. Il nous arrive encore, nous, en troisième, de courir à travers la cour, comme ça, en se poursuivant.
Moi, maintenant, je joue plus. Je m'installe avec mes copines, je vais m'asseoir, on discute et je pense qu'au lycée, je ferai pareil, je m'amuserai plus.
Enfin, en fait, je pense que les jeux évoluent. C'est-à-dire que bon, en 6ème, 5ème, on continue à se courir après. Après, c'est d'autres jeux. Il nous arrive des fois d'être dans ce milieu de la cour, oui, ça nous est arrivé.
Nya, 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 ni, nya, ou nya.
Je pense aussi que les rapports entre les filles et les garçons changent beaucoup au collège. À l'école, ce sont des jeux d'enfants. Au collège, ça devient plus sérieux. On n'embrasse pas pareil.
Alors nous, on ne se pose pas encore la question.
Alors, faut pas se mettre martel en tête en se disant que parce qu'on va arriver au collège, on va forcément aller avec une fille ou un garçon, suivant ce qu'on est. Hein, et à tout de suite embrasser et faire tout. Parce qu'on est au collège, ça va tout de suite changer. Hein. C'est bon, si on est amoureux, au début, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Après, c'est chacun comme il veut. Il n'y a pas de règles parce qu'on est au collège. Hein, c'est des idées ensuite. Hein.
Mélissa, tu penses que le passage en 6ème va te faire réfléchir plus à ton futur métier ?
Non, ça me paraît encore très loin, sûrement en 3ème.
Moi, j'ai une idée précise du métier que j'aimerais faire, secrétaire médicale ou pharmacienne.
Moi, c'est les études littéraires pour faire journaliste ou romancier.
Un bac scientifique pour devenir vétérinaire.
Moi, étant pyromane à mes heures perdues, j'aimerais bien être criminelle.
Rockstar.
Moi, je vais être chirurgien.
Moi, peut-être dans la médecine ou alors dans le commerce, je sais pas.
En fait, en troisième, il y a une heure d'orientation où le prof principal nous donne des conseils sur les orientations. Il nous pose des questions sur la nôtre, ce qu'on aimerait faire. On doit savoir ce qu'on veut faire dès le lycée.
Mais il nous en parle vachement trop parce que c'est en fin seconde qu'on choisit si on prend littéraire ou scientifique. Puis là, on est encore, je sais pas, dans l'adolescence. Avec les rêves d'adolescent, on n'a pas forcément une idée fixe.
Cette année, en CM2, on est les plus grands à l'école. On fait un peu les beaux.
Et il y a quelques terreurs qui font la loi.
En 6ème, on sera les plus petits. Les 5ème, 4ème et 3ème peuvent nous commander.
Moi, j'ai peur qu'on vienne m'embêter dans la cour, juste parce que ma tête ne plaît pas. Il paraît que c'est courant en collège. Je ne sais pas ce que je ferai face à des plus grands.
Oui, on se sent plus adulte, on est plus grand, on est...
Déjà, ouais, on a tout changé physiquement, mentalement.
Perso, je me sens pas plus adulte, mais plus ado, parce que même si on grandit, on n'est pas vraiment adulte, on est encore...
Je pense qu'il y a eu une période où on a essayé de se grandir, ouais. Et puis finalement, maintenant, on essaye de retourner un peu en arrière, en rigolant plus. Donc au lycée, en fait, ça fait du bien aussi de repasser plus petit de temps en temps, parce que c'est les plus grands, on leur demande plus, on leur dit « vous êtes les plus grands, vous devez montrer l'exemple ». De passer de nouveau plus petit, je pense que ça fait du bien, parce que du coup, on n'a plus à montrer l'exemple.
Enfin, ça va nous remettre un peu à notre place parce que là on est les grands, on se la joue et revenir au lycée ça fera du bien.
Déjà quand on est arrivé en 6ème, il y a quelques 3ème quand même qu'on cherchait à nous intimider. En fait, après on commence à passer outre parce que bon, nous maintenant qu'on est en 3ème...
On fait pareil.
Il nous est arrivé de faire pareil mais nous on le fait plus en rigolant.
J'ai été embêté en 5ème. J'étais toute seule parce qu'il y avait personne, ils m'embêtaient tous dans la classe, j'étais toute seule. Mais après, en 4ème, je me suis fait des amis.
Quand ça devient trop sérieux, faut vraiment prévenir, parce qu'après, ça va vraiment loin.
Depuis la 6ème, on m'a jamais embêté. Il y a même des 3ème qui sont venus me parler.
Quand j'arriverai au collège, ma sœur sera en 3ème. C'est elle qui me défendra. Je me sens protégée.
C'est bien ça. À l'occasion, demande-lui si elle peut me protéger aussi.
Nous revoilà pour une autre question. Qu'y a-t-il au collège à la place de la cantine ? À la place de la cantine, il y a un self-service.
Et maintenant, en route pour la rubrique musique
avec Swan et Mounir.
Génial, mais qu'est-ce que tu fais, Brice ?
Je me lève pour danser.
Super, j'arrive !
C'est la zig-zig, c'est la zig-zig-zig du jour, yo !
Au clair de la lune,
yo !
Salut, je m'appelle Swan.
Et moi, Mounir.
Quel tube as-tu choisi de nous présenter, Mounir ?
On ne demande pas la une. Des enfoirés.
Tu peux nous dire comment l'histoire des enfoirés a commencé ?
Il paraît qu'un jour, Coluche a débarqué dans la loge de Jean-Jacques Goldman.
Pour chanter des chansons comiques ?
Mais non, Swan, c'était pour les Restos du Cœur.
Ah oui, c'est vrai que c'est Coluche qui a créé les Restos du Cœur.
Coluche que voulait que Jean-Jacques Goldman compose des chansons qui cartonnent. Et c'est ce qu'il a fait.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit.
Restos du Cœur, c'est une association qui distribue des repas gratuitement.
Oui, qui lutte contre la pauvreté.
Mais au fait, qui sont les enfoirés ?
C'est un groupe de chanteurs, d'acteurs et de sportifs célèbres. Ils chantent bénévolement au profit des Restos du Cœur.
Quelle est leur nouvelle chanson ?
Cette année, les enfoirés reprennent le célèbre « J'ai demandé à la lune » du groupe Indochine.
Allez, on écoute !
Nous sommes juste venus vous dire qu'il ne suffit pas de rêver. Assiette et un sourire, il faut des milliers d'enfoirés. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune. Et en plus Coluche n'est plus là.
Et maintenant Swan, quelle chanson tu vas nous faire découvrir ?
C'est une chanson que mon grand frère m'a fait écouter, Can't Stop des Red Hot Chili Peppers.
Mais je ne connais pas ce groupe.
C'est un groupe américain qui est né à Los Angeles.
C'est quel style de musique ?
Funk rock. C'est rythmé et énergique.
Et Can't Stop, c'est une chanson récente ?
Elle est sortie en 2002, c'est un single de l'album By The Way. Dans la vidéo, ils jouent avec des tubes, des bouteilles en plastique et des cartons.
Allez, c'est parti, monte les volumes. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not the life of imitation. Distant close into the reservation.
Cartable sur Divergence Extrême SM FM 93.9. C'est cool.
Et maintenant, voilà la troisième question. Où est né le groupe Red Hot Chili Peppers ?
Le groupe Red Hot Chili Peppers est né à Los Angeles.
Et maintenant, laissons nos micros à Nabil et Vincent, qui vont continuer l'émission avec vous.
Nous avons passé un super bon moment avec vous, chers auditeurs.
Et oui, on en est déjà à la moitié de l'émission. Tout de suite, il y a de la poésie avec Alison.
Mais Vincent, tu n'es pas dans cette rubrique ?
Si, pourquoi ?
Parce que c'est maintenant. Allez, vas-y, vite, vite, dépêche-toi.
Écoutez, c'est la poésie.
C'est bon, Nabil, je suis prêt.
Bon, Vincent est avec moi, commençons.
Si, je crois qu'elle s'appelle Si.
Oui, Vincent, c'est ça. Et cette poésie, Si, S-I, a été écrite par Rudyard Kipling.
Au départ, elle était écrite en anglais.
Puis, elle a été traduite en français.
En 1895.
Dis, Vincent, il paraît que cette poésie, ce sont les paroles d'un père à son fils.
On peut d'ailleurs vous le prouver en lisant le dernier vers. Tu seras un homme, mon fils.
Waouh, ça paraît simple ce qu'il dit, mais vous allez le découvrir dans les extraits qui vont suivre que c'est très compliqué à la fois d'être un homme.
Et d'ailleurs, c'est moi qui commence.
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot.
À moi maintenant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdent.
C'est bien, cette poésie. Elle est profonde.
Moi, je trouve qu'elle est même très émouvante.
C'est parce qu'elle exprime des vérités, elle dit des choses graves.
Elle parle de la vie, de notre existence humaine.
C'est vrai que c'est un peu pesant, et même trop sérieux.
Oui, son père veut qu'il soit parfait.
Trop parfait à mon goût.
C'est difficile à atteindre la perfection.
Je me demande si lui-même a réussi à accomplir cela.
Peut-être que si, Vincent. En tout cas, ce poème peut ouvrir les yeux des lecteurs sur la vie.
Moi, je préfère vivre ma vie comme je l'imagine, et non pas comme d'autres l'imaginent pour moi.
Chacun suit son chemin dans la vie.
Alors bonne route, chers auditeurs.
La poésie, c'est bien. Mais je préfère les news.
Elles arrivent toutes chaudes, toutes neuves.
Tu as raison, pour être chaud, c'est chaud l'actualité ces temps-ci.
Antoine, Marianne, nos deux Arthur, nous en parlent tout de suite.
Je pense que vous vous rappelez tous de ce qui s'est passé au Japon.
Et de ce qui se passe encore, d'ailleurs.
Vous voulez parler du séisme qui a eu lieu le 10 mars 2011 ?
Mais vous oubliez les événements de la Libye, et de la Tunisie et de l'Égypte qui se sont déroulés quelques semaines avant. On a appelé ça le printemps arabe.
En parlant de printemps, on pourrait aussi parler des fleurs sur les arbres et du beau temps.
Mais ça, c'est hors sujet, Arthur. Les cerises, c'est pour le mois de juin.
Allons, revenons aux chaises sérieuses, mes amis.
Oui, dis-nous comment tu as appris tous ces événements.
Eh bien, je l'ai appris en écoutant la radio dans la voiture. J'étais avec mon père. J'ai entendu que la France avait bombardé l'armée du colonel Kadhafi.
D'ailleurs, on en parle beaucoup, mais on sait pas grand-chose, en fait. En tout cas, moi, je ne comprends pas tout.
J'ai surtout retenu la violence de l'événement, la brutalité des mots utilisés.
Moi, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que ça peut arriver ici, en France.
Finalement, la France est en guerre. On peut imaginer une riposte.
Et les séismes, ça peut arriver n'importe où. Chez nous aussi, nous avons des centrales nucléaires. Le danger est proche de nous.
C'est grave, tout ça on en parle entre copains à l'école. Certains savent plus que d'autres. Il y a des discussions passionnées. Quelquefois on exagère un peu. On s'énerve, on panique.
Ces débats nous servent aussi à nous rassurer.
Moi, ma question, c'est de savoir si les journalistes nous disent tout.
Est-ce qu'ils font un choix des informations qu'ils donnent? Ou bien est-ce qu'on les influence pour cacher certaines choses?
Par exemple, ne pas dire qu'un nuage radioactif est en France, pour ne pas qu'il y ait d'affolement.
Je me demande si j'aimerais être journaliste, parce qu'annoncer des choses graves, ça provoque souvent de la peur ou de la tristesse. Mais quand je serai grand, je changerai peut-être d'avis.
J'aimerais savoir ce que ressent un journaliste quand il est face à un événement grave.
Ou encore comment se fait le choix des informations à donner. Les films montrés, le montage, les textes, les photos, etc.
Bon, arrêtons de poser toutes ces questions et allons chercher les réponses. Pour cela, nous avons demandé à un journaliste professionnel, Monsieur Brun. Il est rédacteur en chef de la chaîne de télévision Télésud, anciennement CTL TV.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le métier journaliste ?
C'est la curiosité au départ. Parce qu'être journaliste, c'est essayer d'être au courant de ce qui se passe autour de soi et d'informer les gens qui lisent ou qui écoutent les médias pour lesquels on travaille.
Est-ce que vous choisissez ce que vous allez dire ou est-ce qu'on vous dit ce que vous devez dire ?
Dans un journal, il y a toujours une équipe. Elle est pilotée par un rédacteur en chef. C'est mon métier. Donc c'est moi qui donne aux journalistes de l'équipe ma façon de voir les choses. Je leur dis que je voudrais un reportage, par exemple, sur une école, ce qu'on y a fait. Mais après, ce sont les journalistes aussi qui donnent leur point de vue. On en discute et puis quand on est d'accord, ils partent en reportage. Donc c'est une décision de tous qui se prend pour savoir ce qu'on va dire et comment on va le dire.
Sur les événements dont vous parlez, pouvez-vous toujours aller sur place ou sinon, comment faites-vous ?
On ne peut pas toujours aller sur les événements dont on veut parler puisque certains se trouvent très loin parce que les routes sont coupées ou que les avions ne volent pas. Quand on fait de la télévision, comme je le fais, on est toujours obligé de montrer des images. Donc parfois, on s'adresse à des gens qui ont pu filmer à notre place. Et ça nous permet de récupérer l'image et de la montrer aux gens.
Comment faites-vous pour continuer à faire votre métier de journaliste face à un événement grave ?
Les journalistes, ils sont comme vous, comme tout le monde, hein, ils ressentent des émotions. Donc parfois, on peut être très triste ou beaucoup rigoler aussi. Donc même quand c'est grave, on fait quand même le reportage. Et puis une fois qu'on est rentré, ben, on a tout le temps de penser à tout ça et d'essayer de l'intégrer.
Comment faites-vous le choix des informations ?
Nous avons ce qu'on appelle une conférence de rédaction. Elle réunit tous les journalistes. plus le rédacteur en chef. Et puis ensemble, on décide. Aujourd'hui, par exemple, il y a un grand match de foot, donc il faut absolument en parler. Et puis, il y a aussi de grands changements à l'école. Ah ben, il faut en parler aussi. Et il y avait aussi, en même temps, à l'université, un autre événement qui se passait. Ah ben là, on peut pas en parler parce qu'on parle déjà d'école, donc on en parlera demain.
Comment savez-vous qu'il y a un événement quelque part ?
Parfois, ce sont les gens qui organisent un événement qui nous appellent. Après, il y a les événements sportifs. Là, il y a un calendrier, donc on sait exactement quel jour il va y avoir tel match. Et puis ensuite, c'est là que les journalistes jouent vraiment leur rôle. Il y a tout ce qui relève de leur métier. C'est-à-dire que ben moi, je connais des gens un peu partout dans Montpellier. Et puis, quand il y a un problème dans un quartier, ils se disent « ça, ça va intéresser tel journaliste ». Alors ils nous appellent et ils nous disent « ah ben là, il y a un incendie » ou « il y en a un autre qui nous appelle pour nous dire « là, il y a tel problème dans tel immeuble ou dans telle rue ». Et à ce moment-là, on décide, nous, si on y va pour faire un reportage.
Comment fait-on pour devenir journaliste ?
Il faut passer son bac. En général, il faut aller à la faculté. La plupart des journalistes font une école qui s'appelle sciences politiques. Et ensuite, il faut faire une autre école qui permette d'accéder au métier de journaliste.
Le métier de journaliste demande de voyager souvent. Est-il dur de s'éloigner de ses proches ?
L'information, elle est aussi au pied de votre école, au coin de ma rue. Et on n'est pas toujours obligé de partir. Mais c'est vrai que les journalistes sont souvent en déplacement selon les médias pour lesquels ils travaillent. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est dur de quitter sa famille et ses enfants. Mais ça, on n'a pas le choix. C'est le travail qui nous y oblige. Et puis, on se rattrape après quand on est en vacances. On leur consacre peut-être plus de temps.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et ben, on a appris plein de choses. Et voilà. Merci. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Après cette poésie philosophique et ces chaudes actualités, détendons-nous avec un peu de théâtre. Mais que se passe-t-il ?
Oui, nous recevons aujourd'hui des invités exceptionnels.
Des invités surprises ?
Oui, les beaux, les magnifiques, nos sauveurs, les quatre fantastiques. Ils ont sauvé la planète.
Grâce à leur super pouvoir ?
Oui, sans eux, nous serions peut-être plus là. Voici donc la femme invisible.
Oui, c'est moi, la femme invisible. Je suis la plus belle.
Voici maintenant la torche.
Bonjour, laissez-moi vous présenter ma fidèle compagne. Ma moto, c'est elle qui me donne de super pouvoirs.
Et la femme élastique est aussi parmi nous.
Moi, c'est mon intelligence sans limite qui me donne des pouvoirs exceptionnels.
Bla, 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 bla,
et enfin, nous accueillons la chose.
Moi, j'ai fait de la boxe. Je me suis pris un coup de poing dans l'œil. Et ma femme ne m'a plus reconnue.
Un mouchoir, vite. Essuyez vos larmes, la chose. Allons, racontez-nous d'où viennent vos super pouvoirs.
Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est un nuage.
Ah oui, le nuage radioactif.
Nous sommes passés à travers.
J'ai cru mourir. Ma beauté en a pris un coup. J'ai cru que j'étais devenue une sorcière. Mais je suis quand même plus belle qu'avant.
Il faisait si sombre que j'ai cru perdre l'esprit. Un cercle d'élèves tourbillonnait dans ma tête.
Et quelle explosion ! Ma moto a vraiment failli ne pas s'en remettre.
Moi, j'ai perdu mes gants de boxe. Mais c'est vrai qu'à présent, je n'en ai plus besoin.
Mais qui arrive ? Dark Vador ?
Je suis ton père.
Ah, vous y avez cru ? Non, en fait, c'est moi, le surfeur d'argent.
Attention, le surfeur d'argent, ce monstre qui a failli détruire la planète.
Oui, mais grâce à moi, il est devenu très gentil. Ma beauté l'a séduit, tout simplement.
Mais non, c'est moi qui lui ai arraché sa planche de surf.
Oui, c'est vrai, quand il m'a arraché ma planche de surf, je suis redevenu humain.
Mais pas du tout, tout le monde sait bien que c'est grâce à moi, la femme élastique.
Oui, grâce à vos bras extensibles.
C'est cela même, je l'ai capturée.
En fait, elle m'a surpris quand j'étais dans les airs. Et elle m'a entourée avec ses bras et je ne pouvais plus bouger.
Comment ça ? C'est moi, la torche, avec mes flammes étincelantes qui lui ai fait fondre les pieds. Des pieds en argent, je vous le rappelle.
Taisez-vous !
Aïe, à moi de jouer maintenant.
Oups, faites attention au décor, s'il vous plaît, la torche. Épargnez nos rideaux et racontez-nous plutôt vos exploits.
C'est vrai que j'ai créé une certaine pagaille dans ma chute. J'ai provoqué un tremblement de terre.
Oui, tu nous as donné du boulot. Heureusement, moi, la chose, j'étais là. J'ai retenu les immeubles qui vacillaient à cause du séisme.
et je les ai empêchés de tomber.
En plus, les immeubles sont immenses au Japon.
Oui, c'était assez lourd à soutenir. Mais maintenant, tout est retourné à sa place, grâce à moi.
Ouf. Oui, mais ce n'est pas tout. Quand j'ai atterri, j'ai fait une onde de choc. Cela a déclenché un tsunami. Et j'ai surfé sur le tsunami à 700 km/h. C'était extraordinaire!
Ça a dû être super cool!
Extraordinaire? Super cool? J'ai dû arrêter les vagues, moi, grâce à mes pouvoirs psychiques. Bien sûr, mais cela a été difficile, car les vagues partaient dans tous les sens.
Vous êtes génial. Il paraît que vous avez réussi à refroidir des réacteurs nucléaires en surchauffe.
Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi sévèrement endommagé les réacteurs d'une centrale.
C'est affreux.
Tu n'as pas été très sympa avec les habitants du Japon.
J'en suis désolée maintenant.
Et c'est vous, la femme invisible, qui avez résolu ce problème ?
Absolument. Je me suis concentrée et j'ai transporté de l'eau de mer directement dans la centrale nucléaire, tout simplement.
C'est incroyable. Et vous, la femme élastique, vous avez aussi sauvé des gens ?
Mais oui, je m'en souviens. J'ai sauvé de nombreuses personnes. Avec mes bras élastiques, j'ai attrapé les naufragés et je les ai tirés hors de l'eau. Sans moi, il y aurait eu tant de disparus.
Vous avez sauvé de nombreuses vies. Et vous aussi, la torche, vous êtes passée à l'action.
Oui, moi je neutralisais les avions espions de l'ennemi grâce à mes boules de feu extraordinaires. Mais j'ai épargné les pilotes quand même.
Vous êtes fantastiques. Vous êtes les quatre fantastiques.
Bon, c'est pas tout ça, mais moi je dois partir. J'ai des missions à accomplir.
Vous allez donc nous quitter ?
Oui, mais grâce aux quatre fantastiques, j'ai compris, rien n'est impossible et on a toujours le choix.
Vous avez vu quand même ?
Les quatre fantastiques, puis-je avoir un autre autographe ?
Bon, allez, on vous le signe et maintenant, on vous laisse.
Et tout de suite, passons à notre petite question. Qui se fait passer pour Dark Vador ?
Celui qui se fait passer pour Dark Vador est le surfeur d'argent.
Ce théâtre était vraiment bien.
Oui, mais je commence un peu à avoir chaud avec tous ces réacteurs qui ont explosé à Fukushima. Maintenant, c'est la fin de l'émission.
J'ai bien aimé cette émission. Et toi, Nabil ?
J'ai adoré. Je me suis beaucoup amusée. Un gros travail d'écriture et de réflexion pour toute la classe.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette émission.
Qui ont répondu à nos interviews.
Ceux qui ont fait le plus gros travail. Nous, toute notre classe.
Mais n'oublions pas Monsieur Capéran, Madame Charton, Madame Schell et Madame Crignou.
Si vous avez aimé cette émission, vous allez aimer la prochaine.
Jeudi 26 mai, 14h30, Madame Charlot avec sa classe de CM1 et CM2 de l'école Jules Simon.
Widad,
Alison,
Nabil,
Vincent,
Isma,
Ymen,
Lisa,
Melissa,
Brice,
Nicolas,
Mounir,
Melinda,
Arthur,
Nina,
Marianne,
Théo,
Zoubir,
Charlie,
Swan,
Alexis,
Antoine,
Arthur,
Hugo,
Ellie.
Au revoir les amis.